pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission L'Envolée comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur 106.3. Et donc ce soir on va parler de centres de rétention, des prisons pour sans-papiers, on va avoir des appels de la prison de Vincennes et du Ménil-Amelot. On va commencer l'émission par lire deux lettres de deux vieux copains, quoi, enfin de Fabrice et de l'infâme. Et à la fin on va revenir sur la mort d'un copain, Santé Notar Nicolas, à Bologne, en Italie, avec un autre appel. Et donc, bon, peut-être pour commencer, pour nous joindre, c'est au 07 52 40 22 48 toute la semaine. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 l'envolée-fpp. Et donc, pour dire un peu qui il y a ce soir autour de la table, déjà, il y a Serge à la technique.
Salut tout le monde.
Il y a Charlotte.
Salut tout le monde.
Greg.
Salut.
Et donc, moi, Alex, voilà, pour remplacer Sylvia qui. On ne sait pas trop où elle est pour le moment. Quoi.
Passe des vacances, sympa.
Yes.
C'est voilà. Pas vrai, on pense à toi, Sylvia.
Et du coup, donc, pour commencer, on va lire la lettre de l'infâme. Et donc, peut-être juste pour le représenter en vite fait. L'infâme, c'est un de ces prisonniers longue peine qui en fait est un prisonnier longue peine du fait de la répression qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il n'y a aucun espace ou de marge de manœuvre avec l'administration pénitentiaire, et qui a pris donc beaucoup de peine interne. Parce qu'il a essayé de se révolter, parce qu'il a essayé différents types de prises de parole. Et donc, il est béton, si je ne dis pas de conneries, à ses 17 ans. Aujourd'hui, il approche plus des 40, quoi. Et il lui reste encore beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Enfin, plus d'une dizaine d'années. Et donc, régulièrement, il nous donne des nouvelles. On avait beaucoup parlé de lui en début d'année, parce qu'il y a eu un transfert assez vénère à Vendin. Depuis, il est à Valence, donc dans la même tôle que Fabrice. Et on a pris des extraits de lettres, en vrai, parce que c'est quelqu'un qui écrit vraiment beaucoup, 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 et que voilà, bon, ça aurait pris toute l'émission, mais du coup, on a pris des extraits de lettres et on va essayer de relayer un peu ce qu'il nous raconte.
Donc, l'extrait de lettre de l'infâme commence comme ça, parce que du coup, il répond. En fait, si moi j'étais bien compris, tu me dis que les lois, de la façon qu'elles sont faites, il y a déjà assez de choses légales qui peuvent être employées pour pourrir la vie des gens, sans forcément aller jusqu'à l'abus de pouvoir. Eh bien, d'un sens, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est chose possible. Mais cette vision des choses a ses limites. Dans le sens où, comme je te le disais, quand ceux ou celles qui commettent ces atteintes dans un premier temps de façon légale, c'est-à-dire sans commettre d'abus de pouvoir, dans le but de pourrir salement la vie des gens, ont affaire à des gens qui, comme moi, combattent le système de l'intérieur pacifiquement, par soit des façons de faire face en direct à de telles atteintes qui sont dans 99% des cas injustes, injustifiées, dans le seul but de nuire, soit par des actes de procédure, par exemple au tribunal administratif, lorsqu'on subit de telles choses, eh bien, ils ne peuvent pas faire autrement que de commettre des abus de pouvoir pour enculer la vie des gens. Car les abus de pouvoir, en ce qu'ils représentent, n'ont en fait que pour but de nuire, de façon immédiate, et très généralement avec des conséquences posant réellement problème. De façon à ce que, vu que ça t'encule la vie et que ça reste persistant dans la durée, qu'il y a quand l'ensemble des procédures, telles les recours au tribunal administratif, pour faire stopper ça. Et encore, car la justice administrative, en termes par exemple de critères à remplir pour qu'elle se mette en marche et aille en faveur du détenu, elle est tellement complexe que si le détenu en question ne connaît pas la justice administrative et ses lois, comment utiliser ces lois pour contrer une administration pénitentiaire qui abuse de son pouvoir à des fins de nuisance terrible, ou même qui n'a pas derrière lui un ou une avocate spécialisée en droit administratif, ce qui est le cas que trop souvent en prison, et ce depuis toujours. Bah, dans un tel cas, le détenu en question qui subira ça, il est foutu. Mais dans les 11, où les pratiques pour tenir sont courantes et exécutées sans vergogne tellement les détenus, pour des raisons qui leur appartiennent, ne font pas de procédure au tribunal administratif lorsqu'ils le devraient, les abus de pouvoir se commettent comme si c'était normal. Alors que ce ne l'est absolument pas. Car ils sont tellement restés impunis qu'ils se croient tout permis. Mais aussi parce qu'ils savent que les abus de pouvoir, lorsqu'ils sont commis, et ce bien avant que le détenu qui les subit ne lance la moindre procédure, lorsqu'il s'agit d'un détenu qui, comme moi, n'accepte pas ça, qu'il va se passer énormément de temps entre l'abus en question, qui tout le temps qu'un tribunal administratif n'aura pas mis son nez dedans, perdurera dans le temps, et que donc le détenu subira, et que de cela, ça laisse la porte ouverte à la multiplication de ce genre d'actes, car il n'y a que comme ça que face à des gens comme moi, certains, dans l'administration pénitentiaire, ont le pouvoir d'enculer la vie des gens. Car utiliser la loi en ces actes légaux pour juste simplement me nuire, ça se contre, en moins de temps qu'il faut pour le dire, sans qu'il y ait d'effet qui perdure dans le temps. En commettant des abus de pouvoir, multiples et divers, c'est tout un combat pour les faire cesser, sous couvert qu'on ait les moyens, les capacités, les possibilités, les arguments nécessaires pour les faire cesser. Dans une telle sombre vision, tu comprends bien alors que dans certains cas, selon les personnes, qu'il s'agisse de gens de la paix mal intentionnés ou de détenus, quelquefois trop souvent même les personnes de la paix agissant ainsi n'ont donc que la solution des abus de pouvoir pour te nuire, car autrement fait, ça serait impossible d'arriver à leur fin odieuse. Ce qui en revient donc à ce que je disais, en ce qui concerne des gens de l'administration pénitentiaire qui se comportent mauvaisement, que toute personne dotée d'un pouvoir est et sera tentée, un jour ou l'autre, d'abuser de son pouvoir et irrémédiablement usera et abusera de ce pouvoir un jour ou l'autre. Et ça, c'est aussi vrai, sûr et certain, que je m'appelle Karim. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai toujours dit, je m'insurgerai toujours contre ça. Car oui, je paye volontairement à la société le mal que j'ai fait dehors. C'est de ma responsabilité que d'en assumer les conséquences. Mais je ne veux pas subir gratuitement et injustement plus que de raison pour satisfaire aux envies et aux fantasmes de certains et certaines qui se sentent investis d'une pseudo-mission de flicaille au rabais ou de pseudo-redresseurs de tort se cachant derrière leurs uniformes et ou fonctions pour justifier leurs actes et donner via leurs mensonges et fantasmes de super-héros en papier mâché. Bref.
Bah, ça fait plaisir quand même de rentendre le poteau. Donc, franchement, tout est dit, quoi. Enfin...
Peut-être juste pour expliquer que le tribunal administratif, c'est le seul tribunal qui est habilité à condamner l'État. Et que du coup, c'est pour ça qu'il se retourne, vers lui. Et après, voilà, du coup, nous, on incite régulièrement les prisonniers et prisonnières à, quand ils peuvent, solliciter le tribunal administratif pour faire condamner la paix, etc. Après, c'est aussi avec beaucoup de lucidité sur le fait que ça peut venir en plus de rapports de force à l'intérieur ou dehors qu'on met en place, mais que ça restera toujours un outil complémentaire à la lutte, quoi. Mais qu'en soi, la justice, elle est, enfin, c'est pas nous qui la, enfin, elle sera jamais orientée pour nous, quoi. Et du coup, c'est malgré tout le problème du TA, quoi.
Puis même, c'est en fait aussi une manière de faire justifier qu'il continue à y avoir l'enfermement. C'est qu'on dit, bah, voyez, il y a des voies de recours, ils peuvent porter plainte, tout ça. Et en fait, ça suffit juste à confirmer le fait qu'on a le droit d'enfermer et d'enfermer de manière complètement dégueulasse. Et voilà. Et là, enfin, je pense qu'il y a un bon exemple qui a été donné ces deux, trois dernières semaines où on en avait déjà parlé ici. Il y a eu des décisions du Conseil européen, de la Cour européenne des droits de l'homme et puis d'autres institutions qui ont dit les conditions inhumaines, ça doit cesser. Et donc là, ils ont écrit la loi expressément pour qu'elle ne soit pas applicable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont écrit dans la loi que ils pourraient être transférés. En fait, si tu faisais ce type de recours. Et donc, ils savent très bien, en fait, en écrivant cette loi, qu'il y aura très peu de recours. Parce qu'en fait, si tu as le choix entre vivre avec des rats et avoir ta famille à une heure de chez toi, eh ben, en fait, tu vas choisir de vivre avec des rats. Et c'est normal. Et ils le savent. Ils le savent très, très bien. Et donc c'est comme ça qu'ils le font. C'est eux qui l'écrivent. Elle est pour eux. Voilà. Et c'est aussi leur outil de légitimation de l'enfermement. Voilà quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les faire chier sur ce terrain-là. Mais c'est qu'un outil et y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans ce genre de situation.
Ouais, et le truc, c'est que par contre, il a raison de dire qu'il faut se battre en fait, contre tous les abus de pouvoir, parce que des abus de pouvoir qui se généralisent, en fait, généralement, il y a un moment où ça se légalise, quoi. Et ça va toujours plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut se battre sur chaque centimètre en, fait, en permanence, enfin, dehors comme dedans, quoi. Parce que tout ce qu'on laisse passer, il y a un moment où il nous l'applique de manière générale, quoi.
Des excès trop réguliers, ça devient la norme. Et du coup, tout le monde s'y habitue, autant ceux qui tiennent le pouvoir que ceux qui le subissent. Ça.
Voilà. Après un an de confinement,
voilà. Ça, c'est fait. On n'a pas besoin de trop développer.
Ça parle à tout le monde.
Et du coup, on a une deuxième lettre d'un autre copain qui est aussi enfermé à Valence, qui est aussi un prisonnier longue peine et qui est aussi depuis très longtemps à l'intérieur. Et où pareil, en fait, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour son rapprochement familial, pour pouvoir retourner en Guadeloupe, et qui du coup, parce qu'il a essayé de lutter à plein de moments, a pris plein de peines de prison, et du coup se retrouve enfermé pour voilà les années, toujours dans des taux loin de chez lui et loin des proches qu'il pourra avoir en France, quoi. Et donc c'est Fabrice, et on va vous lire sa lettre.
Le 18 mars 2021. Salut l'envolé. Ça m'a fait du bien d'avoir de vos nouvelles. Et j'espère que vous allez bien en ce moment et que vous gardez le moral, la force de rester debout avec le couvre-feu qui gâche la vie dehors et le moral. Et qu'au niveau travail, tout va bien pour vous et aussi au niveau famille. Qu'aucun membre de votre famille est touché par ce virus. Et que vous arrivez à évacuer votre stress après une journée de travail dure et compliquée. Sachez que le sport aide beaucoup dans ces moments difficiles. Et je vous dis, ne baissez jamais les bras dans les moments durs et avancez avec la rage de vaincre comme un boxeur lors d'un combat, les amis, d'accord ? Et moi, je tiens le coup et je continue mon sport pour rester debout. La boxe, la muscu et le vélo. Et je lis le livre de Jim Tully, Un vrai dans l'âme, sachez-le. Cela fait 5 mois que je ne peux pas voir ma femme, vu la distance de 600 km, et soi-disant à cause du Covid, ils nous ont coupé les UVF. Et les parloirs, derrière un plexiglas, comme des animaux, sachez-le. Et là, j'ai 9 ans d'isolement pour des motifs bidons. Je suis calme, mais je reste dangereux vu que je suis un preneur d'otages et DPS. Et DPS, sache-le. Au niveau santé, rien ne change. Mais que veux-tu, les abus de pouvoir, toujours. Bon, les amis, je vous dis prenez soin de vous et je pense à vous amicalement, l'ami Fabrice. papillon bagne 100%.
Non, mais c'est déjà, ça fait plaisir d'avoir une lettre de Fabrice où il y a autant d'énergie. Franchement, parce que on en a souvent parlé ici. Mmh. Faut dire que ils lui ont vraiment fait la misère. Ils lui ont fait perdre Louis d'une oreille, tout ça. Enfin, donc quand il parle de ses problèmes de santé, on sait bon, c'est ça dont il parle. Et de voir qu'il a l'air d'avoir la pêche, qui porte des messages comme ça d'énergie et qui veut transmettre de l'énergie à l'extérieur, bah franchement ça fait quand même super plaisir parce que souvent c'était quand même un peu moins énergique quoi. C'est normal avec tout ce qu'ils lui ont fait subir. Donc voilà.
Ouais, moi il y a deux trucs. C'est en fait 9 ans de QI, ça s'appelle de la torture. C'est enfin il y a pas d'autre mot quoi. C'est tu prives quelqu'un enfin de contact avec d'autres humains. C'est en fait c'est des matons cagoulés qu'il a eu. Enfin il a raconté ça très bien dans plein de lettres. Mais cette manière là d'essayer de tuer les gens en les torturant jusqu'à ce qu'ils craquent pour se venger de ce qu'ils ont fait à l'intérieur des prisons à des moments où ils ont voulu se révolter. En fait c'est un message que t'envoies à tous les autres prisonniers pour qu'ils ferment leur gueule. Voilà sur le long terme, mais ça dit en fait le temps long de la vengeance d'État quoi, enfin de la vengeance de l'administration pénitentiaire quoi. Enfin.
Tu voulais continuer là-dessus ou non? Et c'était aussi pour dire qu'il y a encore toujours ces mesures Covid, voilà, qui sont hyper importantes. Comme tu disais, ça fait un an de quasi confinement et on commence à s'y habituer et tout. Ça reste intolérable. Les UEF, ils ont toujours pas rouvert.
C'est pas le seul en fait à refuser des parloirs.
Peut-être préciser, les UVF, hein, c'est les unités de vie familiale. Hein, c'est ce genre de parloir selon à peu près 2 jours où on peut être avec sa famille et ou avec son conjoint, sa conjointe, pour retrouver un petit moment comme ça de comment on pourrait dire, de tendresse, de partage.
Ouais, après tu restes quand même toujours enfermé à l'intérieur. Faut pas oublier que quand même à la base c'est les permissions de sortie qu'on doit permettre et ils ont trouvé ce truc là pour éviter de faire plus de permissions de sortie. N'empêche que ça reste un truc important, qui existe et qui est important pour l'intérieur.
Très important pour Fabrice. Et en vrai, lui, là, il en parle du fait qu'il refuse les parloirs depuis 5 mois parce que ce n'est pas des conditions dignes en fait, pour voir sa proche. Et ce n'est pas le seul. Parce que déjà, c'est un investissement de ouf que d'aller en UVF jusqu'à Valence quand tu n'es pas du coin. Et en plus de ça, maintenant, c'est pour aller prendre un parloir de 45 minutes ou 1h30, quoi. Et en fait, c'est juste du foutage de gueule. Voilà quoi. Et du coup, il y a quand même juste beaucoup de prisonniers qui refusent ça depuis presque 9 mois là, que les parloirs ont été rétablis un peu partout. Et que du coup, en fait, c'est pour ça qu'on dit que les parloirs, ils n'ont jamais été entièrement rétablis parce qu'il y a cette mesure de répression qui est le parloir hygiaphone, et donc qui est le parloir avec plexi, là, qui a été généralisé à tous les prisonniers. Et que voilà, et qu'en plus, il y a la suppression des UVF qui est un truc qui est. Pareil, hein, toujours dans l'idée de priver de lien social, mais aussi de priver de solidarité à un moment où ça reste particulièrement vénère à l'intérieur avec les mesures Covid, quoi.
Et alors, sur ces conditions particulières, il y a eu le 26 mars dernier le tribunal administratif qui a fait sauter les parloirs à la maison d'arrêt d'Angoulême. C'est Benoît David qui a obtenu cette décision de justice. Il y avait déjà eu un semblant de cette décision de justice à Toulouse, mais c'était surtout faire des trous dans les plexis. C'est sur ce genre d'espace, c'est le moment d'utiliser la loi. Donc Fabrice, il est à Valence. À Valence, il y a eu cette semaine un refus de réintégrer à l'issue des promenades et on ne sait pas quelles étaient les revendications à l'intérieur. Si jamais il y a des infos, si à l'intérieur, on sait que vous êtes loin, mais si jamais vous arrivez à nous entendre, parce que voilà, on sait que il y a eu les caméras de vidéosurveillance qui ont été cachées et tout ça. Enfin voilà, ça a été bien tendu. Ils ont envoyé les IRIS. Mais donc, on sait toujours que dans ces situations-là, les prisonniers, ils ont des revendications. Ils prennent des risques, et ils prennent des risques pas pour rien. Voilà, donc, clairement, en tout cas, donc c'était au QMC, donc au quartier Maison Centrale. Donc, on sait que c'est particulièrement dur pour les prisonniers longue peine, en ce moment, avec le Covid et tout. Et donc, c'était la même chose à Arles, il y a quelques semaines. Voilà, c'est toutes ces mesures Covid qu'ils ont mises en place qui ne sautent toujours pas. Contre lesquels, en tout cas, à Arles, c'était pour ça, contre ces mesures-là qui se battaient. Et donc, ça doit sûrement être la même chose ici, mais on ne sait pas. Et donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire sortir des infos quand vous le pouvez, bien évidemment, hein, parce que voilà, vous prenez déjà beaucoup de risques en faisant des refus de remontée de promenade. Mais voilà, en tout cas, c'était pour avertir qu'il y avait des trucs qui se passaient là-bas. S'il y a des gens dans le coin qui essayent un peu de se renseigner, ça serait cool. Donc voilà.
Ouais, peut-être avant qu'on passe un tout petit peu de musique avant de recevoir un appel, dire que pour les gens qui veulent se renseigner plus sur ce qui s'est passé à Arles, il y a eu une émission de radio à Marseille dimanche dernier qui s'appelle La Lucarne, qui est disponible normalement sur le site de Radio Galère, quoi, qui est la radio du coin, où il y a eu un appel d'Adeline qui a raconté un peu pourquoi ça bouge à Arles et comment ça réprime aussi évidemment derrière, quoi.
Puis tu squeezes mes nouses, mais on leur souhaite quand même bienvenue. C'était leur première émission et tout. Donc c'est les dimanches soirs à 20h sur Radio Galère à Marseille. Ça fait plaisir qu'il y ait des nouvelles émissions de radio. On passe un petit son et puis on se retrouve avec un appel.
Je connais beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... Hey, parabellum chargé sur ma mère, c'est pas tes oreilles qui sifflent. Ouais, ça achète des terrains, oublé de grâce sous des terrains d'ici à la base. On voulait juste doubler la surface du domicile. Notre famille connue pour des braquages, évasion et homicide. Cache-moi ta mère, la pute, on viendra dire bonjour à domicile. Pour la pilote, ça gère que des avions, ça gère que des missiles. Le même sourire que quand chef de poste dit dégage, vas-y, signe. Si tout le monde est calibré, tu peux ranger les opinels. J'ai rétrogradé de vitesse, j'ai du bruit dans tous les tunnels. C'est nous 3h du mat dans la caisse, on est au fond de la ruelle. Tu peux déjà appeler ta mutuelle pour la perdre, jamais les duels.
Vite comme les Beatles, Beluga est dans la vitesse. Je vais les semer dans mes vitesses, y'a personne dans le rétroviseur. Poto, j'ai vu que des rainers, je les ken depuis qu'on est mineur. Réveillé bien avant 8h, écoutez bien avant 10h. On marche en mode entre nous. Entre loups, les zoulous nous follow, nous connaissent, nous regardent chelou comme un pointeur en colo. Au collège, en solo, je les soulève, narvalo sont trollés. Je vais troller ta grand-mère, la commère, tes collègues ont du mal à contrôler nos colères. Mon commerce ne tolère jamais les deux mères.
Ils veulent m'étendre dans mon domaine, donne le mal de mer au faux mec.
Être honnête, tenir ses promesses, prends-nous pas pour des marionnettes. Tu te fais baffer jusqu'au bedo, tu te fais chasser comme un bomette. J'ai pissé dans les caves, j'ai chez dans les plus grands pas. Je suis pied dans le vol à l'état, là, je suis en jette la gomme des cales. Je parle de toi quand t'es pas là, quand t'es là, ça te passe le salam. Je dois pas le pétrer loin des palabres, dois attraper toutes mes salades. Niropel Cab, ben ouais mon ami. J'collectionne les classiques comme Hasni Mami. Si ton daron savait qui t'es mon ami, t'aurais rayé ta grand-mère du livret de famille.
J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai sorti un nouveau gamos pour ta frange, c'est pas l'été. Leur concurrence c'est du faux, on dirait du CBD. Tu vas nous demander t'aider, y'a du roro sur les CV. Y'a du roro sur mon pétard,
y'a du roro sur ma CB.
Faut pas qu'on monte sur le dossier, mes refrains aiment pas négocier. T'apprends très très vite à parler, tu mets longtemps à la fermer. Big up à toi, t'es enfermé. Si tu penses à toi un dernier, que t'es là-bas pour les darons. Si t'es béton pour les deniers, j'mets du sirop dans le péri, j'ramène nos aides dans mon terrier. Mentalité guerrier, ça travaille même les jours fériés. Faut du ralice pour la fafa, faut des valises, faut du plata. On va rien claquer en boîte, nous on va acheter des apparts. On a la dalle de pitch, peut bosser les affaires comme des professionnels. Si devant les bleus enculés, t'as bavé au confessionnal. Dommage, on devra alors parler de ta mort au conditionnel. Chez nous, celui qui gagne, c'est le premier qui a sorti son arme.
Oublie ton périmètre, je t'ai demandé 9 mm. T'as cru que t'avais un lance-roquette, tu vas me coller comme une sangsue, comme un parasite à Phuket. Allez, nique ta mère la coquette, y'a un courtois dans ma pocket. Je te vois pas quand tu t'es malade, t'as dû taper dans la c'est pas une alabre. Reviens ici, à la pure du Guatemala, tu repars en bébé.
Vu ce qu'il est condé, les contrôler, les get, c'est pas un son, c'est une sex step. C'est comme 16 mecs dans un 7 mètres carré, je t'explique et tu restes bête. Ça arrive fort, si fort, je suis en big form, c'est que le B4, chaud comme sphère, coursé par G-Port.
G-Force, plus de 600 chevaux, j'ai flow au G-Sport. OG, ce que tu vas faire demain, on l'a fait before, fais pas ta Madonna, je connais des millionnaires en Laguna, des mecs en reste en mer, collage, ça l'homme, tous ces connards, je suis comme Diego Maradona, faut que les connards qui font du mal à mettre au larté, assise comme être connard, le mental en métal, si t'attends la détente, il est temps de détaler avant. On connaît le temps d'étaler des douilles seul pour quelques dollars.
J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de...
J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de...
J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de...
J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de...
Vous êtes bien toujours à l'écoute de l'Envolée sur 106.3 de 19h à 20h30 tous les vendredis soirs. Et donc là, on a un appel d'un prisonnier du centre de rétention de Vincennes. Allô ?
De Ménilamelot.
De Ménilamelot ? Ah ok, désolé. Vas-y, on a inversé un peu les appels. Salut, ça va ?
Oui, bonsoir.
Tu nous entends bien ?
Un petit peu, oui. Je vous entends quand même.
Ok. Ouais, du coup, je sais pas, peut-être que pour présenter le centre de rétention de Ménilamelot, c'est la plus grosse prison pour sans-papiers d'Île-de-France. Que, ouais. Peut-être pour dire, du coup, aujourd'hui, au CRA 3, donc qui est un des deux centres de rétention du Ménilamelot, il y a une grève de la faim qui a commencé. Pour lutter contre les mesures là, qui sont imposées avec le Covid. Et peut-être que toi, tu peux nous dire un peu pourquoi tu appelles à la radio et...
Les conditions ?
Ouais.
Alors, moi, ça fait un petit moment que je suis là. C'est pas un petit moment, c'est quelques jours, on va dire. Une quinzaine de jours, hein. J'ai déjà remarqué les choses qui n'allaient pas au niveau sanitaire, déjà.
Ouais.
Récemment, il y a un monsieur qui a été transporté à l'hôpital. Il était vraiment atteint. Et il était dans un bâtiment, il y avait des gens autour de lui, même dans sa chambre, et on est deux dans chaque chambre. Et ils ont fermé la matinée, ils ont réouvert l'après-midi, et tout le monde est tout le temps là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas désinfecté, et tout le monde habitait le même bâtiment.
Ok. Et ça, c'était quand ?
C'était il y a 3 ou 4 jours, là.
Ouais. Et du coup, peut-être pour expliquer un peu que dans les centres de rétention, il y a beaucoup de prisonniers qui refusent les tests PCR.
Oui.
Parce que les tests PCR, c'est ce qui permet à l'État d'expulser. Souvent, c'est une condition pour expulser. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui refuse les tests PCR, quoi. Et du coup, quand il se passe des trucs comme ça et qu'ils ne désinfectent pas, en fait, ils mettent en danger la vie des gens, quoi.
C'est exactement ça. Et quand ils refusent le PCR, ils les forcent ou bien ils sont mais j'ai entendu qu'ils les mettent en prison carrément.
Ouais, c'est un truc qui arrive assez souvent, soit des personnes qui sont envoyées à Meaux, du coup si c'est du centre de rétention de Ménilamelot, ou à la santé si c'est de la prison pour sans-papiers de Vincennes, ou sinon au Ménilamelot, il y a eu beaucoup de prisonniers en janvier en février qui au bout de leurs 90 jours ont reçu une interdiction de territoire et sont retournés au centre de rétention.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça, parce que les prisonniers savent très bien qu'après le PCR, ils vont les envoyer forcément par avion. Ils veulent pas partir parce qu'ils ont des liens vraiment très forts ici. Il y en a même qui ont des enfants âgés de 13, 14 ans. Je sais pas ce qu'ils ont comme petit problème, de rien du tout, mais ils sont mis quand même avec les gens. Je sais pas, il y a un peu de tout dans cette histoire, il y a un peu de tout.
Et peut-être que tu peux expliquer du coup comment ça se passe quand tu arrives au centre de rétention du Ménilamelot, vu que toi tu viens d'arriver.
Oui, alors déjà on le prend en photo pour nous faire des cartes et après on est conduit dans les chambres. Là, après ça, on est enfermé dans un truc, un portail où il y a plein de loges comme ça. Des chambres, on est tous enfermés dedans, et vers 8 heures on est enfermés, après vers 6 heures du matin, ils ouvrent le portail pour prendre le petit déjeuner, et voilà, et après on est tous ensemble, sans masque, il n'y a pas de distanciation, il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça.
Toi t'es au CRA 2 ou au CRA 3 ?
Oui, parce que là, ils ont fait un soi-disant... comment on appelle ça? Ils ont lavé soi-disant le carrelage, mais les résidus des produits chimiques qui sont tout le temps là. J'ouvre ma porte, là, comme ça, et là, le résidu juste devant ma porte. Et c'est vraiment des produits toxiques, quoi. On appelle ça le décapant. Ah, voilà, c'est ça. Ils décapent le carrelage, mais ça, pour le décapant, ils décapent vraiment, hein. Alors, sentir ça pendant la chaleur, ça remonte, et on sent la chaleur. Le gras 3. Ouais. Et donc, l'odeur, elle est tout le temps là, de nuit comme de jour. Hein. Et, Il y a quoi d'autre sans compter les dépassements de certains policiers. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'aller faire de l'île parce que comme ils ont changé les horaires là, pour les horaires d'été là, et donc il y a certaines personnes qui n'ont pas pu régler leur téléphone parce qu'ils sont basiques. On a plus de caméra, on peut plus filmer, donc c'est normal. Mais comme c'est automatique le réglage de l'heure, donc on se fait avoir avec ces horaires. À l'infirmerie, ça ouvre à 9h jusqu'à 10h. Et si par malheur on dépasse l'heure, on n'a plus le droit d'aller chercher son médicament, qui peut être vital pour la personne, parce que c'est des traitements peut-être un peu lourds. Mais on leur dit quand même, vous n'êtes pas venu à l'heure, donc on vous laisse pas passer. Même si on leur explique le cas, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi en insistant. Alors que c'est vital pour la personne de prendre son médicament à l'heure même, à l'heure précise, quoi.
Ouais, et bon, déjà, on pense que personne ne devrait être enfermé dans ces prisons, mais il faut rappeler que c'est genre particulièrement incompatible avec les maladies lourdes et qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont atteints de trucs assez graves dans ces taux-là et que...
Oui.
En fait, il n'y a aucun soin quasiment quoi, qui est donné. La majorité des trucs qui sont donnés, c'est des calmants et c'est des antidépresseurs ou des trucs pour faire dormir. Quoi.
Oui, justement, en parlant de ça, il y a un cas chez nous, c'est très très spécial. C'est un monsieur, il est venu normalement ici en France. Bon, il n'a pas pu faire ses papiers et tout ça. Mais moi, quand je suis arrivé, je vois un monsieur qui tourne en rond pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Même la nuit, même à 4 heures du matin, il fait que tourner, il parle tout seul. Il est comme ça, il est vraiment malade. C'est un malade mental, mais on fait rien pour lui. Moi, quand je suis arrivé, il était déjà là avant. Donc, le monsieur là, il est tout le temps en train de faire des tours du centre. On cherche même pas une solution pour lui. Il est là et on le laisse tranquille. À partir du moment où il réclame rien du tout, on le laisse tranquille comme ça, mais c'est malheureux. Il n'aura même pas le droit de... Sa famille surtout, elle n'a même pas le droit de savoir où il est, le monsieur, là. Il s'est mort, ou qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Moi, j'ai demandé, est-ce qu'on demande des renseignements sur cette personne, qu'on appelle ses parents, peut-être qu'ils vont venir le chercher, ou il faut qu'il fasse quelque chose pour ce monsieur. Il ne faut pas le laisser comme ça, moi, je trouve.
Le problème, c'est que tant qu'il ne dérange pas... Tant qu'il dérange pas le fonctionnement, le fonctionnement de la tôle, ils vont le tolérer comme ça, ils vont pas se préoccuper de sa santé, hein, ça c'est sûr.
Ouais.
Pour eux, c'est le seul critère, c'est ça, c'est pas sa santé, c'est pas sa famille, c'est ce qui les emmerde pas en fait. Hein.
En fait, le problème commence à partir de l'appareil judiciaire, pour vous dire le vrai. Parce que quand on passe à la tribunal pénal, je sais pas comment on l'appelle, quand on arrive ici, 48 heures plus tard, on est envoyé au tribunal.
Ouais, au juge de liberté et détention qui prolonge.
Ouais, mais là-bas, ils ne cherchent pas à comprendre. On arrive, moi personnellement, je ne savais pas, je croyais qu'elle allait se faire normalement le truc. Ben, même l'avocate qui était commise d'office, elle est sortie contre moi clairement. Elle a dit au procureur, moi je suis d'accord avec vous, moi il faut qu'il soit retenu ici dans le centre. C'est la seule chose qu'elle avait dit. Ouais, pour passer les 30 jours, les premiers 38 jours, en tout cas, je vais vous dire la vérité. Dans ce centre, il n'y a aucune personne qui est passée par ce tribunal. Il a pu régler son problème, sortir dès le jugement. Il faut qu'il passe 30 jours ici obligatoirement. Ça veut dire que le tribunal passé devant le juge ici, c'est une vraie comédie.
C'est une formalité.
Ouais, peut-être.
Je sais pas, c'est un décor. On passe chez le juge, mais on sait très bien qu'on va pas sortir. On n'a aucun droit en fait.
Peut-être que, en fait, faut le dire, c'est que c'est comme la comparution immédiate, quoi. C'est-à-dire tu fais de la garde à vue, et après t'as 48 heures pour préparer ta défense, sachant que comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas le droit au smartphone à l'intérieur, donc tu perds généralement ta puce, tu perds plein de contacts. Et là, t'es censé préparer un dossier qui montre que tu veux partir, mais qu'il faut pas t'enfermer, puisque c'est ça le juge de liberté et détention.
Ouais.
Et t'as 48 heures pour le faire, quoi. Donc déjà, si par exemple, tu bétonnes le week-end en centre de rétention, la CIMAD, elle est pas là, donc t'as pas accès à une adresse mail pour recevoir les documents, tu vois. Et encore plus en période Covid, quoi.
En sachant qu'il faut connaître un minimum tes droits, et que souvent, il y a aussi la barrière de la langue pour bon nombre des personnes qui se retrouvent enfermées dans les camps.
Voilà.
Ouais. C'est un parcours du combattant de toute manière.
Ouais. Je vous assure que vous avez cité mon cas. Parce que mon cas, je suis arrivé un samedi. Dimanche, il n'y avait pas de la CIMAT. Et je suis passé le lundi, même le juge de Montreuil, parce que je suis passé la deuxième fois à Montreuil, ouais, il me l'a reproché. Pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous avez complété votre dossier 15 minutes plus tard? J'ai expliqué comme quoi je suis rentré samedi, dimanche il n'y avait pas la CIMAT, donc lundi j'étais obligé de le faire plus tard parce qu'il y avait beaucoup de monde, et comme malgré ça, c'est resté une tâche sur mon dossier, voilà. Donc vous connaissez vraiment bien le problème, vous avez cité vraiment mon cas, voilà.
Et peut-être, bah juste, c'est le moment de dire que c'est aussi une pratique qu'ils font en prison par rapport aux OQTF, les obligations de quitter le territoire français.
Moi, je pensais que, ouais.
Elles sont souvent distribuées le week-end parce qu'il n'y a pas la CIMAD ou l'accès au greffe, c'est plus compliqué pour contester, qu'il n'y a que 48 heures. Et du coup, quand elles sont données le samedi, par exemple, une OQTF 48 heures, c'est d'heure en heure. S'il n'y a pas la CIMAD et que c'est galère pour le greffe ou que la personne, par exemple, elle galère à lire le temps que soit traduit, eh ben, en fait, ce n'est pas possible de contester et elle est valable pour un an, quoi. Et donc, voilà. C'est des pratiques qui sont pensées, en fait. C'est pas... Voilà, enfin, c'est des trucs qui sont... C'est pas pour rien, quoi.
Ouais, ouais, c'est une machine à broyer.
C'est exactement ça. Est-ce ouais, que ouais. Toi, tu veux rajouter quelque chose?
Je sais que tu veux rajouter quelque chose. Ah. Oui, oui, surtout le problème sanitaire. Franchement, ça fait peur, ça craint. Ça craint parce que... Et on dirait que pour eux, ils sont bien protégés parce qu'ils sont en dehors des cages. Mais nous, par contre, quand ils nous voient même, c'est... En fait, moi, ce que je reproche, c'est que à l'extérieur, quand on voit des civils ensemble, sans masque, ils vont aller les voir. Les policiers eux-mêmes, ils vont y aller les voir. Ils vont les arrêter. Ils vont leur faire une amende de 135 euros parce qu'ils n'ont pas mis leur masque. Ici, la même police, ils nous voient ensemble. Ils ne disent même pas... Séparez-vous, vous risquez d'attraper quelque chose. Non, on dirait qu'ils le font exprès pour qu'on tombe malade et pour qu'on nous envoie chez nous malades.
Ouais, et peut-être faut rappeler que c'est de la responsabilité de l'État. En fait, c'est l'État qui enferme des gens massivement, que ce soit dans les tôles ou les tôles pour sans-papiers, et qu'en fait, c'est à eux de fournir le gel hydroalcoolique, c'est à eux de fournir des masques, et c'est à eux de faire en sorte que les keufs y fassent attention, quoi. Genre.
Puis c'est à eux de fermer les centres de rétention, hein, tout simplement. Enfin, faut en cas d'épidémie comme on l'a en ce moment, il faut fermer les lieux d'enfermement. Voilà quoi.
Ouais. Oui. Il y a un truc encore plus important encore, c'est qu'il y a des gens ici, ils ont passé 3 mois parce que les 90 jours, c'est le maximum pour dans la rétention. Après cela, comme ils ne peuvent pas les garder beaucoup plus longtemps que ça, soi-disant ils les font sortir après directement à la prison. Pour les remettre au centre. Là, ils font le ping-pong avec ces gens-là. Moi, je suis pas encore à ce stade, mais il y en a des gens ici qui ont passé 3 mois. Ça veut dire qu'ils passent 6 mois, 3 mois ici dans le centre. Après, ils passent 6 mois en prison. Ils reviennent pour passer 90 jours encore ici.
C'est ça.
Ouais. Et on en parlait la semaine dernière, justement, dans l'émission, parce qu'il y avait y a eu une grosse révolte en janvier au CRA 3. Et il y a 2 bâtiments qui ont brûlé parce qu'il y a pas mal de gars en fait qui ont été envoyés en garde à vue et qui ont été vus par un substitut du proc ou une proc. Et on leur a proposé une CRPC, c'est-à-dire une reconnaissance préalable de culpabilité, en leur disant voilà, tu prends pas de peine de prison, mais tu prends une interdiction de territoire. Du coup, sur le coup, ça paraît intéressant, quoi. Sauf qu'en fait, cette interdiction de territoire, elle permet de justifier de remettre au CRA, quoi, directement.
Ah,
et donc,
ouais.
En fait, les gars, ils étaient en train de repartir sur 90 jours direct. Enfin, voilà, donc plus de 3 mois ensemble, quoi.
Et ça... Tu voulais dire un autre truc?
C'est juste parce que, franchement, on dirait qu'ils cherchent à rendre les gens malades avec leur test de PCR, là, pour un peu désengorger le centre. Ils le mènent en prison pour faire rentrer d'autres gens. Enfin, c'est comme du business, moi, je trouve. C'est comme ça. Il faut qu'ils fassent du chiffre avec les gens. Ça veut dire qu'ils envoient d'autres gens parce que, comme le centre est plein, il faut qu'ils trouvent des prétextes pour mettre des gens en prison et pour faire rentrer d'autres au centre. Voilà.
Ouais, tu veux dire qu'en fait, il y a une pression... Enfin, ils veulent faire rentrer d'autres personnes dans le centre, donc ils utilisent les tests PCR une fois de temps en temps pour vous foutre en taule.
Très bien que les gens vont refuser, donc ils vont les mettre en prison. Mmh. En attendant, ils vont rentrer d'autres gens qui vont passer 90 jours ici. Les autres, ils sont en prison pour 6 mois. Après, c'est comme une machine bien rodée, en fait.
Oui, puis c'est, y a une culture du chiffre, comme dehors, par exemple, avec les flics. pour pouvoir après dire, ben voilà, il y a eu tant de sans-papiers enfermés, tant de sans-papiers expulsés, pour continuer à nourrir comme ça cette peur ou cette criminalisation des sans-papiers sur un discours xénophobe là, d'extrême droite que tout le monde reprend, et pour pouvoir dire, ben voilà, nous on fait notre boulot, etc. etc. Donc de toute façon, c'est sûr que c'est cette histoire de business, un business de chiffres, complètement.
Ok. T'avais un truc à rajouter ou ton pote qui était derrière, il voulait rajouter un truc ou...
Ouais, vous voulez que je vous passe quelqu'un ?
Bah, s'il veut.
Ouais,
tiens. Allô. Salut.
Allô.
Ouais, tu nous entends ?
Ce que je voulais dire, en fait, ici, c'est du racket loyal, ça s'appelle.
Ils ont quoi ?
C'est du racket loyal. Ils racketent les gens, ils prennent, ils prennent ton argent, l'avocat, il te fait espérer que tu vas sortir. En fait, l'avocat, il prend ton argent, le juge administratif, t'as avec les complices. Et il te prend ton argent, il te raquette et tu vas en prison à la fin. Il dit, ah, l'avocat, je peux rien faire, faut que tu me donnes plus. Et ça te prend 1002, le ça te prend 2000. C'est du racket loyal, en fait.
C'est les baveux qui te prennent cette thune ?
C'est les baveux qui te racontent des baratins pour te niquer derrière. Et moi, ça fait 33 ans que je suis en France, 34 ans. J'ai deux enfants, j'ai une mère de famille. J'étais à l'école en France et il traîne l'administratif, le préfet, il a réussi à modifier tout ce que je lui dis. Il est parti arranger la sauce à sa façon. Et tu vois bien que je parle bien français. Hein. J'ai grandi ici, j'ai vécu tout depuis l'âge de 13 ans.
Ouais, mais de toute façon.
J'ai envie de partir voter des conneries parce que.
Ouais, c'est les baveux qui font pas leur taf.
Les baveux, comme les juges administratifs, sont complices. C'est une politique du chiffre pour racketter. C'est du racket loyal pour moi. Parce que je dis aux juges, si vous êtes des voleurs, vous voulez violer les droits des gens. Parce que je dis qu'il y en a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont en France, 33 ans, avec des enfants, sans marier, avec leurs parents. Et tu veux, comment tu veux expulser un mec comme ça?
Ouais, puis il faut le dire, en fait, il y a un gros business des avocats dans les centres de rétention, parce qu'ils savent que justement, s'ils font pas leur taf, la personne, elle risque d'être expulsée.
Non, ils font pas leur taf, non. On dirait qu'ils ont peur du préfet, ils ont peur de tout. En fait, c'est du racket. Pour moi, je dis, vous êtes des voleurs.
C'est exactement ça, quoi.
Et c'est, pour moi, c'est du racket loyal. Je dis, moi, je suis prêt à témoigner, je n'ai rien à foutre. Je me sens bien, je suis à un point que je n'ai plus rien à foutre. Vous, je sors de prison, je n'ai même pas le droit de toucher mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que là, t'arrives de tôle, en fait, ils t'ont sorti.
De prison, j'ai pris une peine aménageable, c'est-à-dire j'ai pris une peine de 2-3 ans aménageable, je me retrouve en prison. Et ils me sortent une arrêté d'expulsion, date 2007, maintenant en 2021. Arrêté préfectoral, je dis, j'écoute, ça fait 15 ans que je suis dehors, moi j'aime me parler, et qu'aujourd'hui vous me parlez de ça. Il dit non, mais ça a changé les lois. Je dis comme monsieur, ça fait 35 ans que je suis en France. Je suis pas réveillé en France, moi. J'ai vécu toute ma vie, j'ai des enfants, j'ai une famille, on a tout. Ici, le préfet, il invente des histoires pour devoir t'expulser par la politique du chiffre. Ils veulent violer tes droits. Quand tu dis que t'as une famille, il va dire non. Tu dis j'ai des enfants, il va dire non. Prouve-le que tu payes, je te donne l'argent à tes enfants. C'est du racket, en fait. Ils veulent que tu prouves. Comment tu veux prouver ça? Ton fils, tu l'aides, c'est normal. Et mon fils, il vient jusqu'au tribunal avec mes enfants. Tu dis, est-ce que je peux toucher les enfants? Il me dit non. Et ça fait 3 ans que j'ai pas touché mes enfants. C'est pas un problème. Je vais chercher que ça se casse tout pour rentrer en prison. En fait, c'est du racket royal qu'ils te font. Ils prennent ton argent ethnique. Le tribunal administratif me dit à quel juge, il est complice de ce qu'il fait.
Bah, de toute façon, le juge, il sait ce qu'il a à faire. Hein. C'est renvoyer le plus de personnes.
C'est pas
quoi.
Des juges, c'est pas des humains, ces juges-là. Pour moi, ils ne regardent même pas. Ils regardent un numéro. Alors, ils te regardent pas comme un être humain. Ils te regardent comme un numéro. Comme tout à l'heure, je parlais avec un flic. Je lui dis que je vais rester seul en cellule pour éviter les problèmes de Covid. Il me dit quoi? Il me dit, attends, vous êtes quelle origine en fait? J'ai dit, mais t'es sérieux, je suis français, je parle chinois. T'es genre, ils traitent comme genre, t'es moins que rien, t'es qu'un numéro en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre,
bah
c'est
ouais. Racisme.
De toute façon, genre, t'es rien, t'es une merde, ferme ta gueule, voilà. Ça.
Ouais, ça, ils ont tous les pouvoirs quoi à l'intérieur.
Bah là, ils traitent en fait le dehors, je sens pas le racisme, j'ai jamais rien senti, vous. Il y a qui c'est tout le sang, l'administration. Et les gens qui sont malades, les gens qui sont malades de Covid, ils te les laissent, ils s'en battent les couilles. C'est dernier que ta race, je reste avec eux. Et ferme vos cul. C'est-à-dire, tu parles, on fera autre chose. On fera en sorte de t'enculer.
Ouais, c'est ça. Et de toute façon, tu te retrouves entre leurs mains.
Ils ont des activités positives. Ce qu'ils ont fait, ils ont fermé la cellule. Et le lendemain, ils ont ouvert, ils ont mis deux autres personnes. Et ici, on est dans quel monde aujourd'hui? Il est où la sécurité humaine? Il est où le droit de l'homme?
Ouais. Bah clairement ils en ont rien à péter hein. Ce qui compte c'est que les gens ils restent à l'intérieur et qu'ils ferment leur gueule.
Ah.
Ouais, eux ils maintiennent les centres de rétention.
C'est des humains, j'ai l'impression les juges comme les avocats, c'est des robots. voyez ce que je veux dire quand tu parles ils te regardent comme robot.
Ouais, il faut le dire, une séance au GLD, là, c'était au juge des libertés là qui prolonge, là. Les gens en centre de rétention, en vrai, c'est hyper violent, quoi.
Tu te voyais, en fait, ils veulent te prendre ton argent, ils t'obligent à rester là. Alors, ils savent très bien que les seuls moyens de te mettre chez toi, j'ai trois adresses, moi. Voilà. Et c'est, ouais. En fait, ils font tout pour. Si tu viens, inquiète. C'est, en fait, ils prennent ton argent, tu repays. En fait, l'avocat il va te prendre 1000 euros, il va te prendre 3000. En fait, il te dépouille, t'as plus rien. Après, il cherche à t'expulser de force. Il cherche à te mettre le casque sur la tête pour te coacher, pour te faire de la misère, en fait. Allez,
attends. Bah, beaucoup de force à vous, en tout cas. Beaucoup
voilà,
de force.
Voilà, mais juste, il faut des conditions des enfants et qu'au moins ils traitent les gens. C'est aujourd'hui, il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans, même t'as des enfants, ils ont rien à foutre de ta vie. T'as qu'un numéro, tu fermes ta gueule, t'es pas le bienvenu, quoi.
Moi, je me demandais, si vous êtes au CRA 3, est-ce que toi, t'as entendu parler du coup de la grève de la faim dont on parlait en début d'émission?
Ouais.
Tu sais un peu pourquoi...
Tu vas venir voir, même inquiéter quelqu'un, tu verras tout seul. Hein. Tu verras que les gens ne les traitent pas comme des aimants, ils traitent comme des merdes, comme un chien, je crois, qui le respecte plus que nous. Vous voyez l'image à quel point? Un chien, je crois, qu'il a plus de respect que nous.
Ouais. Bah, merci.
C'est trois mois de galère, en fait. C'est trois mois de galère... C'est total, c'est inhumain. Et puis les conditions de vie sont dégueulasses. Tu peux pas marcher, les cellules sont sales. Moi j'ai une adresse, hein, il y en a qui ont des adresses ici, pour tu laisses pas chez toi. Il faut qu'ils fassent ses recours, non, vous le laissez là. Vous restez là, vous payez, vous faites de l'argent. C'est de l'argent, c'est du racket loyal, en fait, ça s'appelle du racket.
Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose?
Hein?
Tu voudrais conclure sur quelque chose? On a un autre appel juste derrière.
Vas-y.
Je disais, est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose parce qu'on a un autre appel juste derrière.
Oui, bien sûr. Moi, je sais pas. Pose-moi des questions, moi, je te réponds. T'as vu, je parle bien, il y a aucun problème.
Non, c'était juste pour terminer. Si tu voulais rajouter un petit truc avant de finir là-dessus.
Dire franchement, faut que t'arrêtes de faire. C'est un pays de droits de l'homme. Ça n'existe pas, le droit de l'homme. Ça n'existe pas ici, ça marche pas. Voilà, ici, c'est la loi des chiens.
Ouais.
C'est qu'un numéro, t'es un chien. En plus, tu trouves tes droits, ils te violent, ils te cachent. Je suis marié, je leur donne le papier de mariage, tu sais, le livret de famille. Le préfet, il a enlevé le dossier comme ça pour te niquer. Vous voyez à quel point ils veulent violer tes droits de force.
Bien sûr.
Et moi, je me demandais, parce que là, du coup, tu disais que tu sortais de 3 ans de tôle, et je me demandais juste comment ça s'était passé en fait, à l'intérieur pour toi, la période un peu avec le Covid. Et le moment où il n'y a pas eu de parloir, tout ça.
Les visites. Non, mais c'est les visites. Ouais, ils te ramènent. Il faudra les visites d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure.
Non, je parlais avant, là, puisque tu dis, là, ça fait un mois que tu es à Ménil. Tu dis qu'avant, tu as fait 3 ans en tôle.
Moi, j'étais en prison, j'ai pris une peine aménageable. C'est-à-dire, j'ai le juge, il m'a condamné. J'ai pris une peine ferme, il n'a jamais mis l'expulsion. Après, derrière, c'est les prisons qui se mettent, ils cherchent à te mettre dans la merde. C'est l'aspect qu'ils appellent les préfectures pour dire, mettez l'expulsion. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les prisons qui te balancent. Comme on va dire, comme si l'histoire de l'époque des naïfs.
Ouais, c'est systématique.
Les juifs, bah, c'est pareil maintenant. Il y a un étranger qui rentre en prison, il faut le mettre l'expulsion.
Et du coup, ça s'est passé comment là pour toi les derniers mois avec le Covid en prison?
Le Covid, là-bas, on était 2-1 par cellule, il y en a qui sont 3, ils ont rien à foutre de toute façon. Les masques, il n'y en a pas. Et les gels, il n'y a rien. Vous voyez que c'est. Ils parlent de. Au moins, je venais mélanger un par un, même si c'était malade, mais tu manges avec les autres. Ici, y a pas, tu rentres ici, il n'y a pas de test obligatoire. Juste pour le vol. Si t'es malade, bah désolé pour tout le monde. Les gars, ils êtes malades tous.
Ouais, bah tu vois qu'ils en ont vraiment rien à foutre, quoi.
Ils s'en battent les couilles pour eux, t'as un numéro aussi. Un chien, ils le respectent mieux qu'un instrument. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu vas dans d'autres pays, t'es français, on t'accueille bien. Pourquoi ici, où la relève, quand t'arrives chez eux, ils te traitent comme une merde? Ça, je peux pas comprendre ça. Tu vas au Maroc et t'accueilles bien, et des bécons sont racistes, tu vas en Tunisie, tu vas en vacances, tu passes tes vacances, y'a pas de problème. Pourquoi quand t'arrives chez eux, ils t'attrapent? Ils te font la misère, ils te torturent, ils te font faire du sang. T'es pas le bienvenu ici. Y'a des gens qui te traitent ici, t'es pas le bienvenu chez toi. C'est pas bien, comment parler avec des gens comme ça? Oh, t'es un être humain, t'es pas un chien.
C'est clair.
Il y en a un ici, c'est un mongol, il pisse sur lui, il dit que c'est pas fou.
Quoi?
Il y en a un ici, il est mongol, hein. Bah, il est... seul, il pisse sur lui, il dort par terre, et le mec c'est un mongol.
Non, bah, il est peut-être pas mongol, il est juste, il est juste en difficulté peut-être. Mais,
il marche tout seul, il marche pieds nus, il marche avec son slip, il me parle tout seul, il t'arrête toutes les jours et demi, il rigole.
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il doit pas avoir sa place ici, mais donc.
Sa place, il est à l'asile psychiatrique, il est venu mettre ici. Mm-hmm. Tout ça pour faire plaisir à la politique du chiffre. Faire plaisir aux fachos.
Ça marche. Et écoute, en tout cas, plein de force à vous. Soyez forts et solidaires entre vous.
Ah, merci pour l'appel.
Merci beaucoup. Ben, beaucoup de force. Ouais.
Et puis, tenez au courant. Au cas. Et voilà. Ouais. Faut qu'on passe. Il y a un autre coup de fil qui nous attend. Force à vous. À la prochaine.
À bientôt. Merci beaucoup.
On va passer un petit coup de zik et puis on se retrouve dans 3 minutes.
Rest in peace, Lord Evermas, Coosta Nigga, Mac Miller, Juice WRLD, XXXTentacion, Jimmy Wapo, ASAP Yams, John Singleton, Nipsey Hussle, Lil Peep, Kobe Bryant. I miss y'all, man. I was just sitting there pouring this perp up, thinking about all this shit. I was thinking, I don't know if I'm reminiscing or what to call this shit. When you get on it, feel like niggas wanna see you fall and slip. See it. Man, I wish my nigga was here with me to take a sip. Hey. Pour some drink for the game. 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 Pour some drink. Ask me to pour me up. Pour some drink for the game. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the pain. Double my cup. Double my cup. Double my cup for the pain. Double it. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the game. Double my cup for the pain. Double my cup for the game. RP my niggas that's gone. Free all my niggas that's locked up. Ain't really gotta say no names. Y'all niggas tryna get me caught up. Niggas be running they mouth. Then all them charges get brought up. We out here getting to a sack. They out here getting they clout up. Man, fuck all these niggas. They don't even care nothing about us. I do it for my niggas that ain't here no more. Fuck all them niggas that doubt us. Sit back, count this count up. Shit on niggas, mount up. Fuck this smoke, this pound up. I don't even want niggas round us. I lost too many niggas. Lost a couple more niggas that was round us. We was out here playing with the white. We was out here chopping that brown up. Run through a sack. Me and my niggas was out here fucking the town up. Gotta go get that money counter when it's time to count up. Big racks on the counter. Watch them niggas frown up. I can't let them nail me, so I keep the hammer. Extended clip bananas. Surround the trap with cameras. My drink expensive, drop 600, all in Sprites and Fanta's. Pour some drink for the game. 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 Pour some drink. Ask me to pour me up. Pour some drink for the game. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the pain. Double my cup. Double my cup. Double my cup for the pain. Double it. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the game. Double my cup for the pain. Double my cup for the game.
Ain't no lick, but she sure lick him. Ain't no Vic, my dogs gon' sick. My nigga gon' blitz, line back position. My niggas in prison, sure do miss. When I pour off for you, I pour out a little. I roll up a few to get through obstacles. I then passed out in the lobby of the hospital. Get money, fuck everybody like a prostitute. What I'ma do is what I do best. Accomplish the impossible. If not, then I'm hostile towards you. And you ever, I'm opposite to. My dad was more than a parent. Hope to see you when I vanish. My nigga Yams told me Spanish. Brother ain't teach me manners, bitch. Let us buy heads before I go to bed.
Forever.
Meet the man upstairs.
Pour some drink for the game.
C'est un alphabet et méchant, je suis mon instinct.
C'est un alphabet et méchant, je suis mon instinct.
Une place au paradis, pas dans leur monastère.
Une place au paradis, pas dans leur monastère.
Ils m'invitent au festin maintenant que c'est plus restreint.
Ils m'invitent au festin maintenant que c'est plus restreint.
Ils sont trop bizarres, ça fait longtemps que je reste loin.
Ça fait longtemps que je reste loin.
Mais faut gagner plus vite, mais mets un gros si le job est historique. Qu'est-ce que tu négocies? Tu sais très bien comment ça se passe dans nos îles. Reste dans ton qu'on n'attend pas le Covid. Ever au fil comme papa l'a fait. Au contraire, j'arrête pas de paraffer. J'éponge de billets, mon petit cœur balafait. Si je suis couronné, c'est pas grâce à la fête. On joue sur les terrains et sur nos émotions, chacun dans son rôle.
Chacun dans son rôle.
Ça finit un drame des fois, vu que mes grands frères c'est pas des lol.
Oh no, oh no.
On fait pas les bonhommes, c'est nous les reines, ils n'ont pas l'habitude.
Je fais le travail même quand c'est Niama, n'auront aucune gratitude. Oh non, non, mais inter les fesses en haut. Je ramène le pain, leur oro. Y'a pas allo, maman, bobo. Oh non, non, blocodo. Les éléphants en troupeau. Amada, zéro dodo. Vol direct, ça ferait bobo.
Posé dans le 4-4, tout est automatique. Bolos donne du respect à ma clique. J'ai l'âge de faire crier ton taron. Le juice miré, gros, c'est sûr, tu cliques. On veut pas m'ouvrir, donc j'ai cassé le carreau. Je te fume et te sèche comme un garrot. C'est en marche, j'ai activé le galop. Gros, je me mets dans le gamos. T'es en dèche. Pendant que le juice s'encaisse, j'oubine, je flex. Je suis sur le toit de ma tête. Juicy, kings. Dans la salle à weed dans fesse. J'oubine, ice. De l'auriculaire à l'index.
Robotique imaginée, programmée seulement que pour faire du sale. Je n'ai plus de pitié, c'est pour mon bien que je vais tous les faire du mal. On vient de la rue, y'a rien à faire chez nous, la violence est banale. Négro, je suis là pour l'étal. Ah.
Oh non, non, mais inter les fesses en haut. Je ramène le pain, leur oro. Y'a pas allo, maman, bobo. Oh non, non, blocodo. Les éléphants en troupeau. Amada, zéro dodo. Vol direct, ça ferait bobo. Oh non, non, mais inter les fesses en haut. Je ramène le pain, leur oro. Y'a pas allo, maman, bobo. Oh non, non, blocodo. Les éléphants en troupeau. Amada, zéro dodo. Vol direct, ça ferait bobo.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30.
On vient de s'écouter, donc vous avez double son, c'était cadeau du jour, c'est pour le printemps. Donc on a entendu Juicy P, Pow Up, et le deuxième son qu'on vient d'entendre à l'instant, c'était Le Juice et Meryl, Oh Nono.
Ouais, et du coup là on devrait recevoir un appel d'un prisonnier du centre de rétention de Vincennes, donc... peut-être juste pour dire, donc c'est une prison pour sans-papiers qui est située au bout du bois de Vincennes, qui est entre une école de keufs et une école de chiens de keufs, en gros. Il y a trois bâtiments qui sont là-bas pour enfermer des sans-papiers. Et donc c'est quelqu'un qui a déjà parlé dans l'émission de l'actualité des luttes de la semaine dernière, du vendredi dernier. Allô ?
Allô, oui.
Allô, bonjour.
Oui, Alex.
Ça va ?
Allô ?
Ouais, tu nous entends ?
Allô ? Allô ?
Est-ce que t'entends ? Pourquoi ?
T'entends.
Tu t'entends, là ?
Ouais.
Ok. Ouais, du coup, je disais que t'avais déjà appelé dans l'émission de l'actu des luttes de vendredi dernier. Et que, du coup, en fait, avec toi, on avait parlé de la répression qu'il y a au centre de rétention de Vincennes sur les refus de tests PCR.
Ouais, c'est ça, effectivement. Moi, j'ai fait 3 mois de prison pour refus de tests PCR.
Ouais, c'est-à-dire que déjà, t'avais fait combien de jours en centre de rétention avant ?
Là, j'ai fait 83 jours.
Okay.
Ils m'ont ramené pour refus de PCR. Mais ils n'ont pas insulé. Ils ont dit refus de la reconduite à la frontière.
Pour une reconduite à la frontière, c'est ça ?
Un refus de...
Refus de reconduite à la frontière, c'est ça qu'ils ont insulé. Et je suis passé devant le délégué du procureur de les routiers. Alors que ça n'avait rien à voir avec cette affaire.
Tu parles d'une affaire de délit routier ?
Ouais.
D'accord.
Je me rappelle sur le papier à marquer le délégué du procureur des délits routiers.
Ok. Et du coup.
Ce qui était marqué sur le papier.
Ok.
Et du coup, toi, à la base, t'as fait 90 jours à Vincennes.
Moi, je venais de la rétention pour refus de test PCR.
Après, ils t'ont envoyé à la santé ?
Ouais, mais il y a eu une petite migmate. C'est quand ils te font faire le test PCR, c'est avec ça qu'ils vont convaincre le consul pour lui dire que toi, tu t'es porté volontaire à rentrer au pays. Tu vois, il te ramène jamais au consul. Moi, depuis que je suis là, ça fait 9 mois, j'ai jamais été au consulat de mon pays. Tu vois.
D'accord. Et ils ont essayé de te faire signer le papier quand même.
Hein?
Et ils ont essayé de te faire signer le papier quand même.
Non, j'ai jamais aucun vide-papier, moi. J'ai jamais aucun vide-papier délivré par mon consul. J'ai jamais vu mon consul aussi. Il me demande juste un test PCR. Et dès que tu refuses le test PCR, au bout de 3 refus, il te ramène devant l'OPJ au commissariat du 12e. Et arrivé là-bas, l'OPJ, il est insinué comme quoi que t'as fait une refus de la reconduite à la frontière. Alors que t'as refusé un simple test PCR.
Ouais, donc en fait, en plus, ils n'ont même pas les papiers qui permettraient de te renvoyer. Donc vraiment, ils te forcent à faire un test PCR seulement pour pouvoir te mettre ça, alors qu'en vrai, ils ne sont pas en mesure de te renvoyer, quoi.
Ben, j'ai eu un cas, je connais un pote à moi, on était là. Lui, il n'a jamais fait de refus PCR, et à un moment, le jour où il devait libérer, on lui a pris de force, on l'a ramené à l'aéroport, on l'a mis dans un vol. Alors qu'il n'avait même pas de test PCR, il n'avait pas le papier que devait lui délivrer son consul. Ils l'ont mis dans un vol, mais il ne s'est pas laissé faire. Il a dû crier dans le vol, il commence à parler de tout, il commence à râler. Et du coup, le commandant de bord s'est présenté pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et il leur a fait savoir qu'il voulait le ramener à son pays, alors qu'il n'avait pas fait de PCR. Tu vois?
Ouais, donc il n'y a rien qui est régulier, quoi. Enfin, à chaque fois, ils adaptent à n'importe qui, n'importe comment, c'est l'arbitraire, quoi.
Voilà, c'est leur façon de faire. Moi, il y a un autre pote, ils ont essayé de le ramener avec des papiers d'un vieux de 74 ans. Tu vois? Mais lui, il ne savait pas lire ni écrire. C'est une fois qu'il est arrivé à l'aéroport qu'ils ont remarqué au niveau de l'embarquement que les papiers qu'ils avaient ramenés ne coïncidaient pas au monsieur qui voulait les faire partir.
Ok.
Et du coup, c'est comme ça qu'ils l'ont ramené au centre.
Ok.
Tu vois.
Ouais.
Moi, je n'ai jamais vu mon consul depuis que je suis au CRA, là. Et ça fait 9 mois que je suis au CRA. J'ai fait 3 mois de prison ferme, plus 3 mois de sursis.
Ouais, c'est juste pour dire, du coup, t'as fait d'abord 3 mois en centre de rétention.
J'ai fait test PCR, mais ils n'ont pas insigné test PCR. Du refus de la reconduite à la frontière. C'est dû à ça que l'OPJ note. Et si jamais tu lis par la procès verbale, tu signes sans pour autant savoir sur quoi, et puis ils essaient de te ramener, en fait. Et les fouilles aussi, ça n'arrête pas, tu vois. Ils ont enchaîné 2 jours de suite pour faire des fouilles sans aucune raison. Des propres gâteaux que notre propre famille nous a ramenés, tu vois. Ils les ont mis dans un sac à poubelle et ils ont tout jeté.
Ouais, du coup, là, tu racontes la fouille qui a eu lieu aujourd'hui, c'est ça, au CRA 1.
C'est au CRA de Vincennes, au CRA 1.
Est-ce que tu crois que tu peux expliquer, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est quoi la gestion des bâtiments à Vincennes, entre les arrivants, le bâtiment Covid et le CRA 1?
Là, ils ont fait un bâtiment différemment où, quand tu viens d'arriver, c'est là-bas qu'ils te ramènent. Mais là-bas, il y a 4 qui reconnaissent pas, tu vois, et du coup les gens qui sont contaminés par le virus, eux ils sont mélangés avec les arrivants, ceux qui viennent d'arriver. Et du coup quand ils font le test et qu'il est négatif, c'est là qu'ils le ramènent dans le bâtiment où on est, tu vois. Ça veut dire même nous on est exposés, parce que du coup les gars ont été testés négatifs alors que ça a pas encore fait d'effet, tu vois. Le temps qu'il arrive, nous incruster, qu'on se mélange avec lui. Tu Tu vois, c'est après que ça va se propager entre nous. Et les gels hydroalcooliques que notre propre famille nous ramène, ils ne laissent pas rentrer. Tu vois. Moi, ma famille qui était en visite il y a 3 jours, ils m'ont rendu des gels hydroalcooliques. Mais ils m'ont fait savoir que c'est une matière flammable, je ne sais pas quoi. Donc ils l'ont saisi eux-mêmes. Je leur ai dit de mettre ça au coffre. À ma sortie, je ramènerai avec moi. Mais qu'ils n'allaient pas s'en profiter.
Ouais, parce que.
Tu vois, alors que quand tu vas vers eux, tu es obligé de toucher du gel et c'est là qu'ils te donnent un masque. Mais entre nous, dans la rétention, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Tu vois, on mange comme de la sardine dans une boîte. On laisse coller, tu vois.
Ouais, et en fait, ce que tu racontes, juste là, sur le gel hydroalcoolique, en fait, c'est le cas dans tous les lieux d'enfermement, quoi. C'est-à-dire, sous prétexte qu'il y a de l'alcool dedans, l'État, il refuse de donner du gel hydroalcoolique aux prisonniers, quoi. En tout cas, en tôle et en centre de rétention, quoi.
Ils ne peuvent pas en avoir, parce qu'ils disent que c'est une liquide flammable, mesure de protection, ils ne le laissent pas rentrer. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils nous exposent à ce point-là.
Ouais, bah tu vois, c'est ça. Si le gel hydroalcoolique, il ne peut pas rentrer, bah tu fermes la tôle, en fait. C'est simple, tu vois. Dehors, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut utiliser du gel hydroalcoolique partout, tu vois.
Des êtres humains qui méritent d'être protégés, en fait. Et quand tu sors pour aller vers eux, c'est là qu'ils te laissent toucher le gel à la main et qu'ils te donnent un masque quand tu vas vers la femme ou l'infirmerie ou le coffre. Ouais, mais entre nous, à l'intérieur, tu vois, ça traîne de tous les côtés, on partage les médecins, le réflecteur, là où on bouge. Mais il n'y a jamais de protection, les distances ne sont pas respectées, tu vois.
Ouais.
Que de la vie, en fait, que du micmac entre le préfet et le commandant du CRA, tu vois. Et l'ASFAM, même l'ASFAM, ils font partie du micmac.
L'ASFAM, peut-être juste pour dire, c'est l'association juridique qui est censée soutenir...
Ils sont censés nous assister sur le domaine juridique.
C'est ça.
Ouais, mais eux, ils sont dans le micmac, en fait.
Et tu veux dire quoi par là?
Parce qu'ils jouent un double jeu, en fait, tu vois. Quand tu viens, ils te posent des questions, en te faisant croire que c'est une association, c'est du bénévolat, ils sont censés nous aider sur le... Mais au bout d'un moment, moi j'ai vu un copain qui s'est fait libérer entre la femme et la police. Il lui avait insinué qu'il avait refusé 7 tests PCR. Tu vois.
Et c'est-à-dire, c'est quoi la femme qu'elle a fait là dans le truc?
Que la police ne reconnaissait pas avoir envoyé au préfet les 7 tests de refus PCR. Et la femme aussi ne reconnaissait pas que c'est eux qui avaient envoyé les 7 tests PCR. Du coup, c'était entre chacun se renvoyait la balle.
Ouais, tu veux dire, en gros, la femme, elle n'a pas transféré les documents pour la défense de quelqu'un, quoi. C'est ça?
Ouais, du coup, ils en ont rajouté. Parce que moi, je suis parti en garde à vue sur au bout de 3 tests qui m'ont ramené en garde à vue. Tu vois? Et ils m'ont même pas laissé prendre mes affaires. J'ai entendu juste mon micro comme quoi que j'étais appelé à l'accueil. Une fois que je me suis présenté à l'accueil, ils m'ont dit que ouais, que vous allez en garde à vue. Je leur ai dit ok, je refuse pas d'y aller. Mais juste le temps qu'on est à ma chambre pour que je puisse préparer mes affaires. Parce que les chambres, elles sont partagées et ça se ferme pas. Parce qu'ils peuvent venir à 4h du matin, être réveillés pour un vol, ou à 2h, ou à n'importe quelle heure. Donc du coup, les chambres, elles ne se ferment pas.
Il continue d'y avoir beaucoup de vols à Vincennes?
Ouais, il y a des objets de valeur.
Non, de vols, moi je parle de vols d'expulsion.
Ouais, il y a des tas de vols, mais il va falloir faire une plainte pour qu'ils puissent superviser les caméras.
Non, t'as pas compris.
Au bout de 4 mois, j'ai vu un cas de vol.
Non, en fait, moi, je te parlais
des expulsions. Ouais. Des expulsions, il y en a encore beaucoup ou pas?
Non, il y a tous les jours, on voit des expulsions. Tous les jours, soit tu refuses de faire les tests, tu vas à la santé, soit tu acceptes de faire les tests, et ils te font un vol pour ton pays.
Ok.
Tu vois, il y a toujours des expulsions comme des arrivants, tu vois. Là où je vous parle, il y a 4 mecs qui viennent d'arriver et ils sont venus du bâtiment là où il y avait le Covid. Là où il y a eu les 4 contaminés là, de la Corona. Et ils sont venus de là-bas. Ils viennent d'arriver à l'instant où je vous parle là.
Ok, et genre ils viennent après avoir eu un test négatif.
Pardon ?
Ils viennent après avoir eu un test négatif.
Est-ce qu'ils ont eu un test négatif ?
C'est d'après leur dire que ça a été négatif. Mais du moment qu'ils se sont mélangés avec des mecs qui sont déjà contaminés.
Ouais, ça met du temps avant d'être valable, quoi.
Ouais, ils auraient dû être libérés, ouais. Quoi.
Ça veut dire que les symptômes ne sont pas encore apparus, mais ça peut apparaître demain ou après-demain, ou même le soir même.
Bah ouais.
Tu vois, partager le même bâtiment avec ceux qui ont été infectés.
Est-ce que... alors là, on va devoir recevoir un dernier appel pour finir l'émission. Est-ce que toi, il y a une dernière chose que tu veux rajouter ?
Tout ce que je voulais vous dire, tout ce que je voulais signaler, le pire, c'est que entre censé représenter la loi et croire avoir du pouvoir, c'est ces deux choses-là qui mélangent ici au niveau de la sécurité. Tu vois, ils sont censés représenter la loi bien sur notre bien et celle de notre sécurité. Alors que tel n'est pas le cas, au fait.
Ouais, parce que en vrai, c'est pas leur rôle, quoi. Eux, ils sont plus là pour foutre la pression pour que les gens acceptent des vols, ou que même s'ils soient libérés, t'oublies pas l'atoll, quoi. Je suis désolé.
Pour qu'ils puissent avoir le dessus sur toi, pour insinuer outrage ou truc de ce genre. Comme ça, une fois passé au tribunal, ça va plus être refus de test PCR, mais outrage ou rébellion. Tu vois.
Ouais, comme ils ont fait avec toi, quoi.
Plus de reconduite à la frontière. Ça veut dire qu'avec ça, tu vois, t'es cuit, toi. Tu es obligé d'aller en prison, en fait. Tous les cas qui se sont passés, tous les mecs qu'ils ont ramenés en prison, c'est ce genre de délire qu'ils les ont poussés à faire. Okay. Tu vois, parce que quand t'es là, déjà, t'es pas bien, tu vois.
En tout cas, franchement, vraiment plein de force à toi à l'intérieur. Désolé pour le raté des coups de fil et tout, mais c'est cool que tu aies pu appeler. Désolé, on doit faire à peine plus court parce que on a un autre truc. Mais n'hésite pas à nous tenir au courant. On te souhaite plein de force. À bientôt.
Ça serait avec un grand plaisir parce que nous, on a que vous pour créer cette lutte.
Bon, en tout cas, n'hésite pas, s'il y a besoin, on sera là. On va passer un petit coup de musique. À bientôt, mec. Ciao, ciao.
Salut.
Ok, merci. Bonne fin de soirée.
Merci à toi.
Ça a été un plaisir de vous parler.
Pas de soucis, à plus. Ciao.
Merci.
Ouais, désolé, donc on coupe un peu rapidement la musique. Là, on a un dernier appel d'un copain pour parler de la mort de quelqu'un à Bologne, d'un camarade qui a beaucoup lutté, pour retracer un peu son parcours et voilà, faire un peu écho à tout ça, quoi. Tu nous entends ?
Oui, salut.
Salut.
Bonsoir à tous et à toutes. Et bon, merci beaucoup pour me laisser quelques minutes pour ce petit hommage. Mais je pense que c'est important aussi de raconter un peu rapidement du parcours de Santé-Notaire Nicolas, qui a été un camarade très important dans les luttes contre la prison et en prison en Italie. Et du coup, voilà, je pense que voilà, c'est important juste peut-être prendre quelques minutes pour reconstruire un peu son parcours. qui était vraiment un parcours très lié à les transformations de tôles en Italie pendant les années 70-80 et aussi le fait qu'il a tenté, il a continué à lutter aussi quand il est sorti de prison et il a continué aussi à raconter cette époque-là et du coup je pense que voilà, c'est pas facile de raconter ce camarade-là qui est mort très âgé, hein, quand même, il avait plus que 80 ans, mais qui a passé beaucoup, beaucoup de temps justement à raconter ce qui s'est passé pendant qu'il était enfermé, quoi. Dans les différents tôles, il a fait presque toutes les tôles en Italie parce qu'il était transféré un peu tout le temps en lien avec les luttes qui menaient à l'intérieur. Et du coup, voilà, je voulais juste peut-être essayer de raconter un peu ce qu'il m'a raconté à moi et aussi aux autres camarades de cette époque-là, quoi, qu'il a vécu directement. Et du coup, voilà, c'est un parcours de lutte qui est quand même très particulier. Vraiment, il traverse un peu des grosses transformations du système carcéral italien qui a été aussi transformé beaucoup, beaucoup, pas seulement par les keufs aussi, mais justement aussi par les rapports de force que les prisonniers ont su imposer à un moment donné de l'histoire italienne, quoi. Du coup, vous m'arrêtez aussi si j'ai dit des trucs qui sont pas trop clairs, quoi.
Non, non, t'inquiète, c'est grave clair en vrai.
Ok. Mais du coup, Sante, il était un immigré du sud de l'Italie. Il a immigré à Turin, comme beaucoup, beaucoup de gens à cette époque-là. Il y avait beaucoup d'immigration interne vers le nord parce que ça commençait à s'industrialiser et tout ça. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui partaient en usine et c'était le cas de lui aussi. Et lui, il avait aussi commencé à se politiser un peu très jeune et il était quand même plutôt proche du Parti communiste italien à cette époque-là. Mais ça, c'était la fin des années 50, début des années 60. Mais très rapidement, il y a des grosses parties des militants liés au Parti communiste qui commencent à s'embrouiller avec la dirigeance du Parti communiste en l'accusant d'être réformiste et tout ça. Et du coup, effectivement, il y a une grosse rupture au début des années 60, quoi. Et tout un tas de gens aussi qui commencent à sortir et du Parti communiste et des syndicats des principaux, quoi. Et c'était un peu le parcours de Sante aussi. Et Sante, avec un groupe de gens, ils forment une bande des camarades, quoi. Et ils commencent notamment à faire des braquages dans plusieurs villes italiennes pendant presque une dizaine d'années avec l'idée de financer des mouvements de libération à l'étranger, notamment en Afrique. Et du coup, il y avait un peu ces premières tentatives aussi de prendre les armes pour dans ces cas-là, c'était justement pour se financer et pour filer aussi de la thune à des mouvements à l'étranger. Et ça, c'était quand même quelque chose de très particulier parce que c'était avant toute l'expérience de la lutte armée en Italie. C'était un peu avant 1968 aussi. Du coup, c'était vraiment un peu quelque chose de particulier. En tout cas, c'était en 1967. Et il passe en tôle, quoi. Et à partir de ces moments-là, comme je disais tout à l'heure, il commence à tourner dans un peu toutes les tôles. Et quand même, c'était un moment très particulier parce que c'était du coup la fin des années 60, un moment où la population dans les prisons italiennes est en train de changer très rapidement, quoi. Et il y a de plus en plus, du coup, des nouveaux prolétaires, souvent immigrés aussi, lié un peu à aussi cette rupture avec les partis communistes et avec les syndicats qui commencent à être en prison. Pas seulement pour des questions politiques, enfin très directement liées à la militance politique, mais aussi pour des pratiques comme celle du braquage et tout ça, c'est quelque chose de très répandu quand même. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a aussi, à l'époque, en fait, les tôles italiennes étaient quelque chose de très, très ancien aussi. C'était vraiment des châteaux de tous les Moyen-Âge, toi. Et il y avait vraiment pas de droits pour les prisonniers à l'intérieur, dans le sens que, par exemple, il n'y avait pas des chiottes, il n'y avait pas d'eau dans les cellules, et il n'y avait pas le droit d'acheter de la bouffe ni rien de tout, quoi. Il n'y avait que la bouffe des, voilà, la bouffe de la cantine et tout ça. Et du coup, c'est ça les premières luttes qui commencent à surgir un peu à la fin des années 60. pour ses droits très spécifiques, qui quand même impose beaucoup, beaucoup de répression. Et Sand, il était un peu dans toutes ces luttes-là, et c'est un peu lui aussi qui les a racontées, quoi. Qui est quand même, enfin, beaucoup des choses ont été oubliées, et c'était très lié à des trucs qui se passaient dans les différentes prisons, mais il n'y avait pas forcément encore beaucoup d'écho à l'extérieur. Et du coup, il y a un peu des différentes luttes qui commencent à se développer un peu dans vraiment plusieurs tôles, quoi. À Milan, par exemple, en 67, et après, très rapidement aussi, dans d'autres prisons, en Ligurie, dans le nord, mais aussi dans le sud, quoi. Et du coup, elles sont très liées, du coup, progressivement à des revendications particulières qui, à un moment donné, ça devient la réforme des règlements internes des prisons et du code, en général lié aux prisons, qui était encore celui de l'époque fasciste, quoi. Et les prisonniers, ils arrivent quand même à se coordonner pas mal entre les prisons, quoi. Même s'il n'y avait pas vraiment d'organisation politique à l'époque qui révolutionnaire, quoi, à l'extérieur, qui s'occupait de ça, sauf un peu une, quoi. Mais même s'il n'y avait pas forcément, voilà, beaucoup de soutien depuis l'extérieur, ils arrivent un peu à lutter sur ça. Et ce qu'ils font aussi, c'est décider de se coordonner un peu plus entre prisons et surtout de trouver de nouvelles méthodes de lutte, quoi. Et par exemple, c'est le blocage de la promenade. Parce que quand même, avant la fin des années 60, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Et ils commencent à développer ce genre des stratégies de lutte-là pour avancer des revendications très particulières, du coup, liées au règlement, liées à des droits spécifiques à l'intérieur. Et ils commencent aussi un peu à gagner. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de répression, quoi. Il y a aussi des morts, quoi. Et notamment, parfois, il y avait des méthodes plus fortes que blocage des promenades. Il y avait aussi prise d'otages et tout ça. Et du coup, c'était pas rare qu'à ce moment-là, bah, les filles qui rentraient, ils tuaient tout le monde, quoi. Mais du coup, par exemple, un autre truc qu'ils racontaient très souvent, c'était une lutte pour avoir la possibilité de cuisiner à l'intérieur des cellules, quoi. C'était quelque chose qui était vraiment complètement inconcevable avant les années 70, et c'était vraiment les mouvements des prisonniers qui a pu gagner ça. Et du coup, ces mouvements-là, ils n'étaient pas du tout centralisés et tout ça. Il y avait des différents comités dans toutes les tôles, quoi. Et ils s'appelaient un peu informellement, quoi, les damnés de la terre. Et ça, c'est aussi c'est intéressant, je pense, parce que du coup, ça faisait référence au bouquin des Fanon, quoi. Et parce que ça montre aussi que, du coup, à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de prisonniers qui commençaient à se former aussi politiquement, et il y avait des grosses luttes aussi pour pouvoir faire rentrer notamment des bouquins et des journaux, quoi. Parce que tous les journaux, ils étaient censurés et tout ça, et les bouquins, il n'y en avait pas, quoi. Et du coup, c'était aussi à partir de ces bouquins-là, sur les Black Panthers et Fanon et compagnie, qui commencent aussi à se former un peu politiquement, et qu'ils arrivent aussi à continuer la lutte, quoi. Ouais. Et du coup,
Non, j'allais juste dire, c'est hyper important là ce que tu racontes, parce qu'il y a eu des mêmes mouvements, par exemple, contre la censure sur les journaux dans les années 70, enfin dans d'autres pays, quoi, dans d'autres tôles. Et qu'en fait, juste pour dire que tous les droits là qui ont été repris depuis un an, et de manière générale, un peu là, tous les trucs, un peu d'espace pour souffler et tout à l'intérieur, c'est des trucs qui ont été acquis par la lutte il y a des fois assez longtemps. Et du coup, l'administration pénitentiaire, à chaque fois, elle essaie de reprendre dès qu'il y a une occasion, quoi. Enfin, dès qu'il y a un truc, ouais. Et c'est le cas avec le Covid en ce moment, quoi. Mais juste pour dire que c'est hyper important de rappeler à chaque fois que tout ça, c'est gagné par la lutte des prisonniers, quoi.
Ouais, bah oui, tout à fait. Sante, franchement, il l'a répété méga souvent, quoi. Et tous les droits qu'il y a, enfin, les droits entre guillemets, après, on sait aussi comment ça marche en réalité, mais en tout cas, tous les petits bouts. Toutes les petites marches de manœuvre qui existent à l'intérieur en ce moment, c'est vraiment les résultats de ces luttes-là. Et enfin, ouais, comme tu dis, quoi, en Italie comme en France, qu'on partout, quoi. Mais c'est important de ne pas l'oublier, parce qu'effectivement, dès que les rapports de force ils changent un peu, bah, très rapidement on revient en arrière, quoi. Effectivement. Et du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, tout c'est un peu éparpillé et tout ça. Et ils arrivent quand même à produire des rapports de force très importants dans les différents tôles où il y a des mouvements de prisonniers qui se développent. Et à l'échelle nationale même, ils arrivent à imposer quand même la réforme du code pénal lié aux prisons et la réforme du régime pénitentiaire en général en 1975. C'était quand même quelque chose de très énorme. Bah, bien sûr, après, les codes, c'était un truc pourri, et réformiste et tout ça, bien sûr. Mais en même temps, ça montrait vraiment, ça reflétait à quel point les prisonniers, ils étaient arrivés à créer un truc quoi, à l'intérieur, au point qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Et en même temps, c'est ce qui se passe à milieu des années 70, quoi. C'est que l'État, du coup, il se rend compte qu'effectivement, l'étole, c'est de plus en plus ingérable. Et ce qu'il pense, c'est que un peu la manière pour arriver à maîtriser tout ça, c'était de, on s'est séparé des prisonniers communs et les prisonniers, entre guillemets, politiques. En sachant aussi que, du coup, cette division-là, du coup, elle était de moins en moins actuelle pour les revendications à l'intérieur, parce que bah, ce qui se passe, par exemple, au tout début des années 70, c'est qu'il y a des grosses luttes en Italie pour l'amnistie des prisonniers, entre guillemets, politiques liées aux grèves des 69, nanani, nanana. Mais à l'intérieur des prisons, la lutte pour l'amnistie, très rapidement, elle est retraduite comme amnistie généralisée, quoi. Du coup, il y a un refus, au début des années 70, de la division entre politique et prisonniers communs, en disant que tous les prisonniers sont politiques. Et ça, franchement, ça aussi, c'était la première fois où ça sortait, en vrai.
Mmh. Et, ouais. Et ça, c'est aussi un truc qui est hyper important à dire. Je te préviens juste qu'il reste 2 minutes avant qu'on rende l'antenne, et que du coup, si ça te va, on pourra continuer là. Enfin, là, on peut continuer pendant 2 minutes et après reprendre la semaine prochaine pour finir plus loin sur.
Ouais, bah en tout cas, franchement, je pense qu'en vrai, la chose la plus importante avant de parler de tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment de rappeler un peu toute cette période-là où lui, il était vraiment en première ligne dans toutes ces luttes-là, qui n'étaient pas du tout liées à des organisations politiques, mais qui étaient très spontanées et très auto-organisées par les prisonniers à l'intérieur. Et après, lui, il reste en prison 10 ans après aussi, mais il continue à lutter aussi quand il sort, au début des années 90. Et il continue à raconter vraiment ce qui se passe à l'intérieur, ce qui s'est passé à l'époque, oui, certes, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et je voulais juste, enfin, peut-être pour fermer, pour conclure, quoi, de dire qu'en fait, bah, lui, il est mort il y a 10 jours, mais encore jusqu'au dernier mois de vie, il a continué à lutter aussi à l'extérieur et, par exemple, il était très engagé aussi par rapport aux dernières opérations répressives contre les anarchistes à Bologne aussi ailleurs. Et aussi, il a beaucoup parlé aussi, par exemple, de toutes les révoltes dans les prisons qui ont eu lieu l'année dernière pour les Covid et tout ça. Donc voilà, c'était un peu un hommage, quoi, à cette personne-là qui a beaucoup donné, je pense, à la lutte contre l'étole de tous les points de vue aussi, du point de vue de la mémoire, mais aussi en continuant à lutter à l'extérieur en fonction des sorties, quoi.
Yes. Et ben voilà, et si t'es chaud la semaine prochaine, on peut essayer de continuer un peu à raconter ce qui s'est passé plus tard, enfin une fois qu'ils ont réussi à créer ces quartiers pour politique.
Ouais, et puis c'est important de reparler aussi ce qui s'est passé pendant le Covid et tout ça. On en avait déjà fait qu'un peu des émissions et tout ça, mais c'est important de parler de tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Si t'as un petit big up à passer, parce qu'on va y passer.
Ouais, bah du coup, je sais pas s'il y a des camarades de l'Italie qui écoutent, qui comprennent les Français, mais en tout cas, big up à lui, sans doute.
Ouais, force à vous en tout cas. Voilà, et puis, on continue la semaine pro.
Yes.
À plus.
Salut.
Ouais, alors 2-3 petites brèves, on en parlait tout à l'heure, il y a un prisonnier des Black Panthers qui est décédé cette semaine. Il avait 70 ans, il avait passé 51 ans en taule, il était rentré à 21 ans, ils l'ont pas laissé sortir, il est crevé à l'intérieur. Donc on voit grave la répression d'État. Pour les mauvaises nouvelles aussi, pareil, à Bourges, le tribunal, il y a des gars qui s'étaient évadés en grimpant, sans rien détériorer. Ils ont passé le toit, ils sont montés sur le toit, ils ont réussi à s'évader grâce à des draps. Et tout ça, ils leur ont rajouté 2 ans de tôle. C'est un scandale. Faut encore rappeler qu'il y a encore 30 ans, les évasions, quand il n'y avait rien d'autre, c'était pas pénalement responsable. Une évasion comme ça, il y a 30 ans, ils n'auraient rien pris, c'est juste normal en fait, et c'est le cas aussi encore en Suisse et en Belgique, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a pas que en France, mais
C'est un truc de ouf, ils ont rien cassé, ils ont rien fait, ils sont juste partis quoi, et ils ont été plus forts, et respect à eux, et voilà. Mais c'est aussi un message qu'on envoie vers l'extérieur, voilà. Un autre big up pour les gens qui se sont retrouvés à Saint-Étienne, qu'on fait une marche, voilà, la semaine dernière, voilà. Et un salut aussi à Philippe Elchenaoui, qui a été un long compagnon de route, qui s'est fait emmerder par les juges ces derniers temps. Et pour une fois, une bonne nouvelle, Nabil, on est trop content que tu sois dehors, voilà. On sait que c'est le bracelet, mais quand même, on sait que t'es content, et donc ça fait trop plaisir de te savoir à l'extérieur. Et voilà, on va passer quelques big up.
Alors, il y a le big up de K, une pensée au Grizzly. Rappel, le printemps est arrivé, c'est l'heure de stopper l'hibernation et aux enfermés de Valence. Merci Fabrice pour ta lettre, sache-le. Un salut fraternel à Mika, Bilal et les pas fatigués du QI de Saint-Maur. Nadia, une pensée, même si tu entends pas, on est ensemble et la sortie, c'est sûr. Force à Fabrice, merci pour ta lettre. Bisous à Haddad à Nantes, lâche rien et vive le djembé. Grosse pensée aux proches de Jimoni qui ont enfin pu l'enterrer. Plein de force à vous, le combat continue. Et moi, je passe un gros big up à tous les poteaux qui sont dans les tôles de la région, et beaucoup, beaucoup de force aussi aux proches.
Ouais, bah, beaucoup de force à ceux qui nous ont appelés là en centre de rétention. On essaiera de donner des nouvelles et de voir un peu comment ça se passe, quoi.
Force, courage et détermination. À la semaine prochaine, il n'y a pas d'arrangement.